Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Mes chers amis, bonjour. Je suis absolument enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Parce que figurez-vous que c'est un grand jour. Aujourd'hui, en ce 1er mars 2023, je fête avec vous les 5 ans du podcast. Et oui, 5 ans, c'est fou quand j'y pense. J'ai lancé le podcast qui, initialement d'ailleurs, s'appelait La Crème de la Crème, puis est devenu Le Gratin et enfin, depuis maintenant à peu près un an, le podcast de Pauline Agneau. Le 1er mars 2018, donc ça fait exactement 5 ans, jour pour jour, que bah, je suis avec vous à essayer de vous partager mes aventures au travers des parcours inspirants de mes invités. Du coup, j'ai voulu vous faire un épisode un peu spécial, ça va pas être une leçon comme une autre, je vais parler seule, si vous m'autorisez ce petit plaisir, parce que quand même, hein, les anniversaires c'est fait pour ça, pour se faire plaisir. Et donc j'ai rassemblé pas mal de sujets que je voulais aborder avec vous, à la fois une rétrospective chiffrée, vous allez voir c'est assez intéressant je trouve, sur les épisodes les plus performants, comment le podcast s'est fait connaître, des anecdotes aussi, et puis tout simplement les chiffres du podcast, c'est aussi un sujet sur lequel vous me posez très souvent des questions. Ensuite, au-delà de cette rétrospective, je vais vous parler de petits cadeaux, parce que comme on dit dans ma belle famille, quand il y a un anniversaire, on doit le fêter. Et bien, et c'est pas juste sur un jour, ça doit durer un mois. C'est le mois d'anniversaire. Moi, ça tombe bien. En plus, mon anniversaire de podcast, c'est le 1er mars. Alors, tout le mois de mars va être une espèce de giga fête où je vais vous inviter à découvrir plein de nouveautés. Et puis enfin, pour terminer, je vous ai aussi préparé une petite FAQ où je réponds à vos questions. Il y a quelques semaines, je vous ai posé des questions sur Instagram, sur le podcast. Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Et donc, je vais tâcher d'y répondre en live avec vous aujourd'hui. Alors d'abord, pour commencer, cette fameuse rétrospective, quelques grands chiffres. Je vais être relativement brève parce que j'ai pas non plus envie que ce soit fastidieux pour vous, mais je sais que vous êtes nombreux quand même à vous poser la question, en tout cas vous me la posez souvent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est que ce podcast? Déjà, ça veut dire ce podcast, plus de 400 épisodes. Quand on y pense, c'est fou. 400 épisodes, tout simplement parce qu'en fait, des épisodes, j'en fais en moyenne 2 par semaine, puisque j'ai tous les lundis, comme vous le savez, les interviews avec mes invités. Et puis, j'ai très régulièrement les leçons, le mercredi, et aussi, de temps en temps, le book club qui apparaît quand même une fois par mois le dimanche. Donc en fait, tout ça pour dire que j'ai 2 à 3 épisodes par semaine. Donc c'est pour ça que j'ai ce nombre colossal d'épisodes. Je n'ai pas systématiquement des épisodes qui sont neufs, puisque de temps en temps, je peux faire des rediffusions, ça arrive notamment pendant les vacances. J'ai choisi de le faire parce qu'avec 400 épisodes, je peux imaginer que vous ne les avez pas tous écoutés. Il y a certains épisodes qui sont absolument géniaux, que j'ai pu faire en 2020, en 2018, 2019, et je me dis, mais c'est trop bête, j'ai envie de leur donner plus de visibilité, c'est pour ça que j'ai choisi régulièrement de faire ces rediffusions. D'ailleurs, bien souvent, vous me dites que ça vous plaît bien, donc je compte bien continuer comme ça pour donner autant de visibilité possible à ces épisodes qui parfois étaient un petit peu sous-exploités, si je puis dire. Donc comme je disais, plus de 400 épisodes. Au-delà de ça, en termes de nombre d'écoutes, ça va être plus de 20 millions d'écoutes. 20 millions d'écoutes, quand on y pense, ça donne un peu le tournis, franchement. Et je dois dire que quand je me suis lancée il y a 5 ans, mais je pensais même pas un jour arriver à 1 million d'écoutes. Maintenant, il y en a 20 millions, et puis surtout, ça continue à s'accumuler. C'est assez dingue. Évidemment, quand je dis des écoutes, c'est pas forcément des auditeurs uniques, hein, c'est des épisodes écoutés de podcast, mais 20 millions, c'est un tiers de la France, quoi. Enfin, je veux dire, c'est absolument colossal. Donc, je voulais vous remercier parce que, évidemment, tout ceci, c'est grâce à vous. Et d'ailleurs, évidemment, j'ai prévu de vous dire merci un peu tout au long de cet épisode particulier des 5 ans, mais en fait, si je suis là aujourd'hui, si je continue, en fait, à faire tous ces épisodes et que j'essaye de me donner autant de mal, c'est juste parce qu'en fait, vous me faites des retours tellement agréables, tellement bienveillants, tellement positifs, que même quand j'ai des coups de mou, même quand je suis fatiguée, même quand j'ai pas envie parce que j'ai mal dormi et que je me dis, cette interview ou cette intro que je dois faire pour la prochaine leçon, bah, en fait, ça me motive, quoi, parce que pile à ce moment-là, en général, je reçois un message sur LinkedIn, sur Instagram, et en fait, ça me donne la pêche. Ou aussi, petit secret un peu caché, mais que je vous partage, c'est que bah, quand je suis franchement fatiguée, et ça m'arrive, et parfois, bah, j'ai des périodes pas faciles. Franchement, l'année 2022, pour moi, a pas été une partie de plaisir tout le temps. Je suis passée par des grosses phases de... Bah, franchement, je crois qu'on peut dire quasi burn-out. J'étais pas au top. Et ben, un des trucs qui me remontait énormément le moral, c'était d'aller regarder les avis que vous laissez, notamment sur Apple Podcast, parce qu'on peut les lire sur Apple Podcast. Et franchement, ils sont pas tous positifs. Il y a des avis aussi où vous me faites des feedbacks. Et franchement, c'est utile aussi. Mais ça me donne quand même la pêche parce que je me dis, en fait, je fais tout ça pour des vrais gens qui écoutent et à qui ça peut être utile. Et du coup, ce sentiment d'utilité, bah, c'est exactement ça qui me porte, quoi. Ça me fait vraiment du bien. Donc, bah, merci à tous ceux qui prenaient le temps de m'écrire. Je sais que bah, vous avez d'autres choses à faire, vous aussi, dans une journée, que c'est pas forcément un truc qu'on fait spontanément. Moi-même, j'écris pas très souvent, en fait, bravo ou merci à des gens que j'apprécie. Et du coup, bah, c'est un petit effort en plus, mais sachez qu'en tout cas, ça compte beaucoup pour moi. Donc, je vous remercie vraiment pour ça. Alors maintenant, après cette longue introduction complètement décousue, je vais passer à mon premier point, qui est la rétrospective. Comme je le disais, premier épisode du podcast, le 1er mars 2018. Je me rappelle, j'avais invité mon amie Hélène Le Gastelois. Et ça, petit aparté, j'ai fait exprès, justement, d'inviter une personne que je connaissais très bien, qui est Hélène, qui est une amie chère, qui est venue à mon mariage, enfin, qui fait partie de mes meilleures amies. Je voulais parler avec une personne, en fait, avec qui bah, j'allais pouvoir me sentir bien, je pourrais être moi-même, je voulais pas trop me mettre la pression. Et donc, j'ai pas tout de suite commencé par essayer d'avoir Bernard Arnault sur le podcast. Je me suis dit, on va déjà commencer par des personnes bah, qui vont être bienveillantes et accessibles avec moi. Et du coup, Hélène a vraiment merveilleusement bien joué le jeu, puisque non seulement elle a accepté l'invitation, elle est venue, elle s'est pointée chez moi, je me rappelle, après un déjeuner à la Palette un dimanche, donc on a enregistré cette interview quand on était toutes les deux chez moi un week-end, c'était très sympa, et puis on a passé un super moment, elle s'est livrée comme jamais, parce que Hélène en plus est quelqu'un qui est très humble et très discrète, et qui vraiment ne se livre pas énormément publiquement. Et puis surtout, en fait, elle a accepté de relayer l'épisode de podcast, ce qui a donné un essor considérable, en fait, et une visibilité considérable au podcast pour son premier épisode. Et alors, je vous avais dit que je parlerais un peu chiffres, au-delà de cette petite séquence émotion. Eh bien, en fait, le premier épisode de podcast, dès les premières semaines, je me rappelle pas exactement du nombre de jours que ça a nécessité, mais a touché les 4500 écoutes. Vraiment, mais dès le démarrage. Et ça, sachez que c'est un très gros chiffre, parce que bah, j'avais pas de communauté, j'avais même pas de réseaux sociaux à l'époque, en réalité. Et du coup, le fait d'avoir tout de suite 4500 écoutes et des avis aussi, puisque Hélène avait incité son audience, s'ils appréciaient l'épisode, à laisser des avis positifs sur Apple Podcast, bah, en fait, a propulsé tout simplement mon podcast en tête d'affiche d'Apple Podcast, qui est donc la régie, on va dire, de référence des podcasts. Et donc, j'ai été mise en avant, parce que j'étais tout simplement le premier podcast mis en avant, si vous voulez, sur Apple. Donc vraiment dans le classement, toutes catégories confondues, hein, pas juste la catégorie business, bah en fait c'était mon podcast, alors que j'étais complètement inconnu au bataillon et qu'il y avait les grosses têtes, Rire et Chansons, et puis on de la traconte quoi, enfin je veux dire des têtes d'affiches hyper connues. Et puis d'autre part, en fait, j'ai été mise en avant dans diverses sélections d'Apple comme bah, le nouveau podcast à écouter, la recommandation. Donc ça, évidemment, ça a eu un impact énorme sur la visibilité à venir du podcast, parce que même si en soi 4500 écoutes, on peut dire que c'est pas tant que ça par rapport à 20 millions, bah en fait, au démarrage, partir de zéro et arriver à déjà 4500, bah, c'était énorme. Et pour ça, je tiens quand même à remercier à nouveau Hélène. Ça paraît rien, mais ça a fait une énorme différence pour moi et pour le podcast. Donc vraiment encore un grand merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir soutenu autant dès le démarrage. Ensuite, vous allez voir que le podcast, il a cru, mais il a pas du tout cru de manière explosive. Ça a été vraiment un chemin graduel, lent, mais toujours en fait en montée, quoi, en pente montante, vraiment une pente montante. Et donc, en gros, comme je vous disais, premier épisode, 1er mars 2018, 4500 écoutes dans les premières semaines. Fin d'année 2018, début 2019, je touche les 100 000 écoutes par mois. Ça veut dire que concrètement, tous les mois, ou à peu près tous les mois, je commence à toucher 100 000. Alors pas forcément personne, hein, parce qu'une fois de plus, les écoutes, c'est pas forcément des individus uniques, mais en tout cas, il y a 100 000 épisodes qui sont téléchargés. Donc ça, déjà, c'est quand même un premier pas énorme. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas tant de podcasts qui rassemblent 100 000 écoutes. C'est quand même assez conséquent. Ensuite, 2020, donc en gros, fin d'année 2019, début d'année 2020, là, bah, je passe un nouveau cap puisque je touche les 200 000 écoutes. Donc en fait, 100 000 écoutes de plus, je double concrètement mon nombre d'écoutes, quoi, ce qui est quand même assez incroyable. Et là aussi, je tiens juste à dire, c'est pas via un invité particulier, c'est la succès en fait des différents invités, de nouvelles personnalités. Je pense la discipline aussi de faire un épisode par semaine toutes les semaines. C'est quand même quelque chose, je peux vous dire, qui est pas toujours facile. Une fois de plus, quand on est fatigué, quand on a trop de boulot, quand on a des vacances, il faut s'organiser à l'avance. Quand vous avez des invités qui annulent à la dernière minute, ce qui peut arriver de temps en temps, ils ont aussi des agendas très chargés, eh bien, faut quand même s'organiser. Et surtout, faut s'organiser sans déroger à la qualité. Donc, ce qui est pas facile, parce que trouver de bons invités toutes les semaines, je trouve que c'est pas évident. Donc, tout ça pour dire que j'arrive à 200 000 écoutes début 2020. 2021 rebelote encore 100 000 écoutes, donc faut croire que j'étais abonnée au plus 100 000 écoutes par mois, donc là j'ai pas doublé, j'ai plus fait à nouveau 100 000 écoutes, et j'arrive à 300 000 écoutes donc début 2021, ce qui est encore une fois franchement génial, parce que juste déjà continuer à croître, c'était très positif, surtout que je l'ai pas précisé, mais je n'ai jamais payé, je n'ai jamais fait de publicité pour le podcast, c'est-à-dire que c'est 100% organique quoi, c'est 100% le bouche à oreille, c'est 100% grâce à vous, parce que vous en parlez autour de vous, parce que les invités en parlent autour d'eux, enfin bref, c'est vraiment uniquement grâce à ça que j'ai réussi à augmenter l'audience podcast. Donc début 2021, 300 000 écoutes. Et alors 2022, il semble se passer quelque chose. Est-ce que c'est la sortie du Covid? Enfin, je peux pas vous dire, mais alors là, assez incroyablement, je touche les 500 000 écoutes. C'est-à-dire que c'est pas tous les mois 500 000 écoutes, mais j'ai certains mois assez fréquents, je dois dire, où j'ai 500 000 écoutes dans le mois. Et d'ailleurs, encore là, janvier 2023 était encore à ce niveau-là. Donc toujours pareil, une pente qui croît. Et le message que je voulais vous faire passer, c'est que je pense que c'est une bonne métaphore de la vie, si je puis dire, en tout cas de moi, mon expérience professionnelle et personnelle d'ailleurs, c'est qu'en fait, rien ne se fait en un jour, tout prend du temps. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de martingale, mais en réalité, quand on s'accroche, quand on est discipliné, quand on aime ce qu'on fait, quand on se remet en question aussi, les choses finissent par marcher. Et ça, c'est vraiment un message auquel je crois beaucoup, moi, personnellement. On me dit souvent, mais c'est quoi la recette? Comment t'as fait ton podcast, etc., ou mes réseaux sociaux, tout. Mais il n'y a pas de recette, si ce n'est le travail, la discipline et le fait d'aimer ce qu'on fait. Et je dis souvent, en fait, si vous êtes passionné, quand je dis passionné, c'est pas que je pense à mon podcast matin, midi et soir, mais c'est que vraiment j'apprécie faire mes épisodes de podcast. Et encore 5 ans plus tard, c'est une question qu'on me pose souvent, d'ailleurs. Oui, j'adore encore rencontrer de nouveaux invités, j'adore découvrir de nouvelles personnalités et poser ces interviews, ces questions, même si parfois, une fois de plus, je vais pas vous mentir, il y a des invités avec lesquels j'accroche moins, ou il y a juste des jours où je suis moins dans mon assiette, mais au global, vraiment, j'adore ce que je fais avec le podcast. Je pense que cet amour finalement de mon métier et de cette activité de podcast fait que j'ai pas trop de difficultés à continuer, et que même 5 ans plus tard, j'ai envie de continuer encore derrière, que je suis ravie de faire un épisode par semaine d'interview et un épisode de leçon, parce que ça me booste, parce que ça me motive, parce que j'apprends des choses, et parce qu'en plus, j'ai l'impression que c'est utile à certains d'entre vous. Et ça, c'est peut-être le conseil que je peux vous donner si vous aussi, vous vous lancez dans une aventure, qu'elle soit professionnelle, personnelle, un side hustle, comme moi, ce podcast, parce que c'est pas mon activité principale. En fait, au final, je pense que si vous aimez vraiment ce que vous faites, vous allez pouvoir continuer. Et je pense que la discipline et la consistance sont assez clés pour réussir et émerger. Alors maintenant, deuxième étape de cette rétrospective, je voulais faire un petit jeu et vous parler des épisodes qui ont le mieux marché sur ces 5 années de podcast. Roulement de tambour, à votre avis, quels sont les épisodes qui ont rassemblé tout simplement le plus d'écoutes? Là encore, je précise quand même, c'est important, que ce ne sont pas des épisodes qui ont été sponsorisés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun de ces épisodes où j'ai fait de la pub, que ce soit d'ailleurs sur YouTube ou sur le podcast. En fait, c'est vraiment 100% organique, quoi. Si vous voulez, c'est uniquement vous qui en parlez autour de vous, et ça m'arrive très souvent, en fait, d'être tagué sur les réseaux sociaux où je vois « Ah, vous avez adoré cet épisode » et du coup, vous dites à tous vos copains « Ah, mais allez écouter cet épisode avec Serge Marquis, il est génial, je l'ai adoré. » D'ailleurs, vous allez voir bien souvent les personnes qui sont en fait les plus relayées, c'est pas forcément les personnes les plus médiatiques. Et ça aussi, je dois dire que j'y prends un certain plaisir. Alors du coup, top 5, quel est l'épisode numéro 5 qui a le mieux marché, enfin la 5e place de ce grand podium du podcast? Eh bien, je suis très contente parce que c'est une personne que j'aime beaucoup à titre personnel. Il s'agit de l'animatrice, de l'entrepreneur Absatou Si. Une femme donc, une femme qui m'a fait le plaisir d'être sur le podcast il y a maintenant quelques temps et qui, je m'en rappelle quand j'avais fait l'interview avec elle, a une telle verve, parle avec une telle passion, et notamment je me rappelle quand elle me parlait de son papa. C'était tellement émouvant. Je me rappelle très très bien de ce moment, j'ai presque l'impression d'y être encore, on était chez moi et elle parlait et j'ai eu un moment un peu, vous savez, ces moments de prise de recul où en fait j'étais à la fois dans la conversation mais en fait je visualisais ce qui se passait comme si j'étais un peu en dehors de moi-même. Et je me suis dit, mais honnêtement, là, ce qu'Absatou est en train de me dire, c'est tellement bien, c'est de l'or en barre. Et je me suis dit, mais Franchement, des moments comme ça, on n'en vit pas très souvent. Donc merci à toi, Upset Out, de t'être confié avec autant de sincérité, avec autant d'honnêteté et puis avec autant de passion. Je pense que ton discours, enfin la preuve, a vraiment touché beaucoup de monde puisque cet épisode a été relayé un nombre de fois incalculable et encore, ce qui est génial avec le podcast, continue à être relayé aujourd'hui. Donc merci à toi, Upset Out, déjà d'avoir accepté l'invitation et puis d'avoir joué le jeu, quoi, autant. Parce que du coup, tu fais quand même partie des personnes qui ont rassemblé le plus de monde sur mon podcast et sache que cet épisode, ma chère Upset Out, eh ben, il a rassemblé quand même plus de 80 000 personnes. Donc là, pour le coup, c'est 80 000 personnes qui ont écouté cet épisode spécifique. Franchement, quand on y pense, c'est énorme. C'est quasiment la taille d'une ville, quoi, de Tours. Enfin, je veux dire, c'est colossal. Donc vraiment, un grand bravo à toi, Upset Out, et puis surtout encore, merci à toi. Ensuite, épisode numéro 4. En termes de performance, si je puis dire, j'aime pas trop parler de ça, mais voilà, le top 4 de mes épisodes, c'est un épisode avec une personne pourtant qui n'est pas du tout une personnalité médiatique. On pourrait se dire, Upset Out, bon, elle est quand même très connue du grand public, elle a une grande communauté sur les réseaux sociaux, bon, ça a peut-être joué, peut-être, même si j'ai eu des personnes qui ont, en fait, beaucoup plus de followers sur les réseaux sociaux qu'Upset Out. Eh bien, figurez-vous que dans le top 4, j'ai Estelle Touzet. Qui était à l'époque, en tout cas, la grande sommelière du Ritz, qui est, franchement, on peut le dire, très connue dans son milieu, mais pas du tout connue du grand public. Et du coup, avoir Estelle au-dessus d'Upset Out, et surtout dans le top 4, c'est-à-dire au-dessus de littéralement 380 autres, ou 90 autres invités, enfin, c'est absolument colossal, et surtout, c'est dingue, et je suis hyper heureuse et honorée, c'est un choix éditorial que j'ai fait depuis longtemps, de mettre en avant des personnalités que je trouve inspirantes, intéressantes, et qui ont plein de choses à raconter, mais qui sont pas forcément suffisamment à mon goût, en tout cas mis en avant dans les médias. Et c'était un choix que j'avais fait avec Estelle. Moi, j'adore le vin, je suis passionnée aussi par le vin, et surtout, mais je trouve que l'art du service, l'art honnêtement de l'hôtellerie, mais c'est quelque chose franchement qui me fascine, parce que je trouve que c'est un tel investissement personnel, c'est un tel travail. Moi, ça me rend parfaitement humble. Enfin, je me dis, mais c'est fou à quel point ces personnes dédient leur vie à leur passion. Et à leurs clients aussi, à d'autres. Eh bien, en fait, cet art du service, visiblement, il a plu à beaucoup d'entre vous, puisque Estelle Touzet est donc en numéro 4. Elle est juste au-dessus d'Upset Out, pour tout vous dire. Elle est à 84 000 écoutes. Mais c'est colossal. Et vraiment un grand bravo à toi, Estelle, si tu nous écoutes. Je suis très, très fière, que tu sois dans ce top 4. Et vraiment, je trouve que ça rend aussi honneur, finalement, à chacun d'entre vous qui écoutez ce podcast et qui ne cédez pas à la facilité de juste écouter des épisodes avec des personnalités connues, parce qu'en fait, et ça vous me le dites très souvent, parfois vous êtes étonné par des personnalités que vous ne connaissiez pas, que vous suspectiez pas, et qui finalement, en fait, vous sont complètement subjugués et qui sont pourtant pas connues du grand public. Et ben, visiblement, ça a été le cas avec Estelle. En plus, petit aparté, je me rappelle très bien que j'avais interviewé cet épisode à distance avec toi parce que c'était en plein Covid, Estelle, et que la qualité sonore est pas terrible. Donc, comme quoi, quand il y a un bon contenu, que ce soit la qualité sonore, que ce soit le fait que la personne soit connue ou pas, bah en fait, ça marche tout seul, quoi. Et là, ça a vraiment été le cas avec toi, Estelle. Épisode numéro 3. Alors, c'est sympa et je suis très contente d'avoir cet épisode numéro 3 parce que figurez-vous que c'est une leçon. C'est vrai que traditionnellement, mes épisodes d'interview sont plus écoutés que les leçons. Un peu plus écoutés. Pas toujours beaucoup plus, mais quand même un peu plus. Et bah pourtant, là, en place numéro 3, donc quand même sur le podium, hein, nous avons une leçon du podcast. Donc ça me fait quand même assez plaisir parce que c'est un épisode que j'ai enregistré toute seule avec mes petites mains. Et cet épisode, c'est l'épisode qui s'appelle « Comment définir sa stratégie de vie ». C'est un épisode qui a rassemblé 91 000 écoutes. Donc c'est là, on frôle la barre des 100 000, c'est énorme. Donc c'est un thème qui vous a touché. Pour tout vous dire, il y a une autre leçon qui vous a aussi beaucoup touché, qui est en position numéro 6, mais du coup je l'ai pas mise, qui du coup m'a fait bien plaisir, parce que là aussi c'est un épisode en fait où je parle à l'un d'entre vous. Et donc je trouve ça assez génial de me dire que ces sujets de développement personnel, ces sujets de prise de recul sur soi-même, de stratégie de vie, hein, comme le nom de la leçon l'indique, sont des sujets qui vous touchent. Et je crois que cet épisode, moi je m'en rappelle très bien quand je l'avais publié, il a été relayé, mais un nombre de fois vous en êtes emparé, vous l'avez partagé autour de vous, vous en avez parlé autour de vous, enfin vraiment je l'ai vu et je vous remercie. Et la preuve d'ailleurs, c'est que les résultats sont là puisque c'est le numéro 3 en termes d'écoute sur le podcast. Numéro 2, on arrive à un homme que j'admire beaucoup. Je me rappelle quand j'ai fait cette interview aussi, on l'avait faite à distance, donc là aussi comme quoi finalement les préjugés ont la vie dure, mais finalement, c'était pas en physique que je l'ai fait. Et pourtant, on a eu une connexion incroyable. On a eu un message incroyable de la part, donc, de Patrick Mouratoglou, le fameux coach, the coach de tennis, le coach qui a fait le succès de Serena Williams et de tant d'autres, qui est au-delà d'être un coach de tennis, parce qu'au final, on parle pas tellement de tennis dans cet épisode, juste une personnalité absolument incroyable. Et du coup, c'est naturellement pour ça que cet épisode a connu autant de succès. C'est un épisode qui a rassemblé 100 000 écoutes. C'est énorme. Enfin, franchement, toucher 100 000 écoutes pour un épisode, je pense qu'il y a assez peu d'épisodes de podcasts français, franchement, surtout sur des durées d'une heure. Hein. Une fois de plus, c'est pas un épisode de 5 minutes, c'est une heure à chaque fois. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui rassemblent autant de monde. Et franchement, je suis très très fière, mais surtout, je suis hyper heureuse pour Patrick. Et je remercie Patrick parce que la raison pour laquelle il a rassemblé autant de monde, c'est que bah, il a touché au cœur quelque chose. On parlait de confiance en soi, on a parlé justement de comment s'améliorer. On a parlé de nos doutes, de comment avoir des petites victoires, et moi-même, cet épisode m'avait beaucoup marqué. D'ailleurs, je l'ai réécouté, moi aussi, de temps en temps, parce que j'en avais besoin. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'il a aussi bien marché, si je puis dire. C'est qu'en fait, il a vraiment touché au cœur des sujets assez profonds, dont on parle pas tant que ça, en public. Donc vraiment, merci mille fois Patrick, si tu nous écoutes, d'avoir accepté toi aussi de jouer le jeu, alors que tu me connaissais pas, de parler à distance et de te livrer autant. Enfin, last but not least, le numéro 1. Alors, est-ce que vous devinez? Roulement de tambour. Je fais exprès de faire durer un peu le plaisir, mais là, en fait, je dois vous dire, on est plus dans la même catégorie, parce que avant de vous citer le nom de cette personne, donc Patrick Mouratoglou, qui est quand même le deuxième épisode le plus écouté avec 100 000 écoutes, là, je passe sur 320 000 écoutes. Donc, c'est un épisode, ce qui a fait trois fois plus d'écoutes que le deuxième épisode le plus écouté de mon podcast. Donc c'est juste, on est plus dans le même monde. Là, il s'est passé un truc et je le savais franchement quand on a écouté l'épisode, je l'ai senti. Mais même moi qui l'ai senti, je peux pas vous dire en fait, je pensais pas qu'il s'en mêlerait autant. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'il continue à être téléchargé. Quoi, c'est ça qui est formidable avec le podcast, c'est que ça ne s'arrête jamais. Eh bien, cet épisode, c'est l'épisode avec Alain Juillet. Alain Juillet, l'espion, vous savez. Alain Juillet, cet homme à la vie, mais complètement rocambolesque, incroyable, qui pendant toute sa vie, en fait, a été agent secret, a eu une double vie, quoi. Une vie de commercial dans plein de grandes maisons, dans plein de grands groupes, notamment chez Ricard. Et qui, en parallèle de ça, en fait, menait une vie double. Même sa famille l'ignorait et l'a découvert plus tard dans la presse. J'ai pas envie de tout vous raconter parce que si vous ne faites pas partie de ces 320 000 écoutes, et ben vraiment écoutez cet épisode, d'ailleurs, comme tous ces autres épisodes. Mais il est absolument exceptionnel. C'est une personnalité que j'adore, Alain Juillet, parce que, en fait, il est vraiment dans le partage. Il est dans le don, quoi. Il est dans la générosité et le nombre de phrases qu'il a dites, que je me suis notées. Enfin, franchement, je vous conseille vivement d'écouter ou de réécouter cet épisode qui, je suis sûre, pourra vous marquer. Donc voilà, vous avez le top 5, Alain Juillet, Patrick Mouratoglou, La Stratégie de Vie, Estelle Touzet, Abset Houssi. Mais au-delà de ça, évidemment, tant d'autres invités, tant d'autres leçons, tant d'autres personnes aussi, parce que je vous remercie, vous qui postulez aux leçons, qui ont accepté de donner de votre temps pour le podcast. Et vraiment un grand merci à vous, et c'est vous qui avez fait aussi avec moi tout ce travail. Hein. Je suis pas du tout la seule à y contribuer. Donc je voulais quand même vous partager ça, parce que je trouvais que c'était assez rigolo. Et puis surtout quand on voit ces résultats, on peut quand même être fier de tout le travail accompli. Bon, c'est tout pour la rétrospective. Je vais pas vous barber plus longtemps avec plus de chiffres. Je pense que j'ai donné pas mal de données, mais en tout cas, ça me faisait plaisir quand même de répondre à ces questions qu'on pose tout le temps. C'est qu'est-ce qui a fait le succès du podcast? Comment est-ce que ça s'est développé? Donc là, je pense quand même vous avoir donné pas mal de chiffres. Alors maintenant, si vous êtes OK avec moi, on va passer à cette deuxième partie de cet épisode anniversaire, justement avec les cadeaux, avec qu'est-ce qui fait que cet épisode est un épisode particulier anniversaire. En gros, j'ai envie vraiment de fêter, quoi, de célébrer mon podcast, de fêter en fait tout ce que ça m'a apporté et du coup de vous donner quelques petites choses en retour pour vous remercier une fois de plus de tout ce que vous m'avez apporté. Alors ça va se passer assez simplement, ça va se passer d'abord sur Instagram où j'ai décidé, figurez-vous, toutes les semaines pendant ce mois anniversaire, de vous faire gagner un lot, de faire donc des jeux concours, quoi, concrètement, mais pas n'importe lesquels, des lots qui en fait je pense vous sont vraiment utiles et puis surtout qui sont liés à mes invités, à certains des invités qui m'ont le plus marqué. Alors non, j'ai pas fait participer Alain Juillet en vous faisant le béaba de comment devenir un agent secret, encore que ça aurait été assez sympa, mais globalement je me suis un peu creusé la tête avec mon équipe et on a contacté en fait un certain nombre d'invités pour vous proposer justement des cadeaux, quoi, pour vous remercier de nous soutenir, de nous écouter, et donc voilà. Donc assez simplement, si vous me suivez pas encore sur les réseaux, n'hésitez pas à aller regarder ce qui s'y passe. C'est donc sur mon compte Instagram Pauline Léniaud, et vous allez voir apparaître toutes les semaines un jeu, un concours, quelque chose qui va, j'espère, vous intéresser et puis surtout potentiellement vous donner envie. Ensuite, pour continuer à fêter dignement cet anniversaire, comme je vous dis, hein, dans ma belle famille, les anniversaires, c'est sur un mois entier, quoi. En fait, tout le temps, on mange pas un gâteau. Une fois, c'est quasiment tous les jours pendant un mois. Et bah, du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est vous faire une autre rétrospective, mais cette fois, une rétrospective de mes leçons. Parce que vous êtes souvent nombreux à continuer à me poser des questions sur les réseaux sociaux, et au final, vous vous rendez pas compte que, franchement, avec ces 50 podcasts, mais le nombre de leçons que j'ai fait, même moi, parfois, je l'oublie, est tellement important qu'aujourd'hui, on aurait quasiment besoin d'avoir une encyclopédie, quoi, une bibliothèque, en fait, de mes leçons, parce qu'il y a déjà plein de sujets que j'ai traités. Alors, bien sûr, je peux toujours les traiter un peu différemment, mais en réalité, souvent, les fondamentaux restent les mêmes. Et donc, ce que j'ai décidé de faire avec mon équipe, et je les salue parce que franchement, pour le coup, c'est un très, très gros travail, c'est de vous faire un peu le best-of, de vous faire vraiment mais le top des leçons que j'ai pu faire, le top du top des leçons que j'ai pu faire sur ces 5 dernières années et de vous le capturer en une rétrospective, en un document en fait, un espèce de livre blanc qui, c'est pas très sexy livre blanc, mais en tout cas un petit document, une encyclopédie quoi, des leçons qui vous aident et qui vous permettent de bénéficier des meilleurs conseils. Tout ça, ça va être disponible à partir de demain, donc à partir du 2 mars 2023 entièrement gratuitement. Je le mettrai à disposition sur tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à le télécharger parce que je pense que ça peut vous être utile. Enfin, vraiment, l'objectif de ces leçons depuis le départ, c'est de vous aider. Alors, bien sûr, j'aide la personne qui me pose la question, mais j'espère que ça aide aussi d'autres personnes. Et j'ai bien conscience que parfois, quand on a une question, bah, on n'a pas le temps d'aller farfouiller partout sur Internet pour se dire, ah, ok, est-ce qu'elle a répondu à ça ou pas? Et donc, c'est pour ça que, bah, finalement, je me suis dit avec mon équipe que ça serait hyper chouette de vous faire, en fait, mais vraiment les tops enseignements. Si je devais vous livrer dans quelques grandes lignes les quelques vraiment top leçons que moi-même j'ai pu vous donner sur ces 5 dernières années, et ben qu'est-ce que ça serait? Et ben vous aurez tout donc dans ce joli document qui est très sympa, très facile à lire en plus. Donc tout ça, ça se passe sur mes réseaux sociaux, comme je disais, à partir de demain, sur LinkedIn et Instagram. Voilà pour les petits cadeaux. En fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Une fois de plus, hein, je veux pas être trop longue et franchement, c'est peut-être embêtant, donc je vais passer vite, mais quand même, je voulais vous le redire. C'est que je voulais vous donner un peu, parce que même si vous êtes nombreux à me dire, et je vous en remercie, ah ben, merci Pauline, t'es très généreuse quand tu fais tes épisodes de podcast, tu n'es pas payée pour le faire, etc. C'est vrai. Mais en fait, j'ai quand même aussi vraiment le sentiment, et je dis pas ça pour vous faire plaisir, que vous me donnez beaucoup, parce que, bah, vous m'écoutez, parce que vous me faites des feedbacks, parce que vous me dites que vous êtes pas d'accord, parce que vous me faites des suggestions d'invités aussi, ça j'aime beaucoup. Et du coup, bah, j'avais quand même envie de faire preuve d'un peu de générosité et de vous montrer que quand je le peux, quand je prends vraiment le temps de le faire, bah, j'essaye de vous donner plus et c'est ce que j'essaye de faire ce mois-ci à l'occasion de ces 5 ans via ces deux petites choses. Enfin, dernière partie de cette leçon particulière, parce que le temps passe et que peut-être que vous avez d'autres chats à fouetter, et ben je me suis dit que ça serait sympa de répondre à vos questions les plus fréquentes FAQ donc sur le podcast. Alors déjà, la première question, celle qu'on me pose tout le temps, c'est « Pourquoi est-ce que t'as lancé un podcast, Pauline ?» Cette question a une réponse qui est à la fois simple et compliquée. La raison pour laquelle j'ai lancé ce podcast, c'est parce que, pour être honnête avec vous, je suis passée donc en 2017-2018 par une période très difficile. Une période où franchement, je me suis beaucoup remis en cause, j'ai mis beaucoup de temps à m'en sortir et les podcasts m'ont aidé. J'ai commencé d'ailleurs à écouter des podcasts d'autres personnes, notamment sur la recommandation d'un de mes amis américains qui s'appelle Alexandre et qui m'a dit « Mais franchement, écoute, tu vas voir, ça va t'ouvrir l'esprit, fais du running quand tu le fais en plus, enfin ça va vraiment te changer la vie. » Et au début, j'y allais un peu franchement à reculons. Et effectivement, ça a changé la vie, ma vie, puisque la preuve aujourd'hui, j'ai créé mon podcast. Donc ça pour dire que j'étais dans une période de moins bien et je le dis parce que déjà premièrement, on a tous des périodes de moins bien et je vous dis et d'ailleurs que j'en ai encore vécu une en 2022. Donc ça, je pense qu'il faut un peu le désacraliser et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et puis d'autre part, au-delà du fait qu'on vit tous ces périodes un peu moins bien, bah on peut en fait se faire accompagner dans ces périodes, bien sûr par des thérapeutes, mais aussi tout simplement bah via des personnes qui nous inspirent. Et moi je trouve que quand on a des personnalités comme ça, même si on les connaît pas, qui nous tirent vers le haut, qui nous donnent la pêche, qui nous motivent, qui nous font voir les choses différemment, mais franchement c'est le meilleur moyen d'aller mieux quoi. En tout cas moi, toutes les fois où j'ai eu des moments difficiles, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire, de puiser de l'énergie chez les autres qui ont de l'énergie. Et donc bah si vous-même vous vivez une période difficile, et je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutez le podcast vous le faites précisément pour ces raisons, et ben voilà, n'hésitez pas à partager ce message parce que je pense que franchement un podcast avec des personnalités comme celle que j'ai la chance de rencontrer, bah vraiment ça peut nous tirer vers le haut et parfois nous sortir d'une période franchement pas évidente. Donc voilà pourquoi j'ai créé le podcast. J'avais besoin d'air, j'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin d'autres choses dans ma vie que mon travail. Très honnêtement, je pense que j'étais pas très très loin d'un burn-out à l'époque, et du coup, je m'identifiais complètement à mon job. Et le fait d'avoir cette activité en plus qui m'inspire, qui était pas là pour gagner de l'argent, mais qui était juste là en fait pour faire des rencontres, pour donner aussi. Franchement, ça m'a donné un nouvel élan, ça m'a donné une mission, et depuis 5 ans, franchement, ça me porte. Je vous dis pas que j'ai pas des moments difficiles, mais c'est pour ça que je l'ai fait, quoi. Et pour la petite anecdote, quand j'ai lancé ce premier épisode, donc avec Hélène Le Gastelois, je savais pas du tout si j'allais continuer. Franchement, je me suis dit, ça se trouve, personne ne va écouter, ça va pas me plaire, je vais pas réussir à trouver des invités, enfin, j'en savais rien. Mais je me suis lancée. Je me suis dit, ok, on n'a rien à perdre. En tout cas, je suis au fond du trou. Franchement, tant qu'à faire, autant essayer de se donner les moyens, quoi, de faire quelque chose et d'être heureux et d'avoir un truc qui me plaît. Et donc, j'ai contacté Hélène, j'ai expliqué la situation, elle m'a tout de suite dit oui. Et voilà, et je l'ai lancé comme ça, et je me suis dit, je vais peut-être faire 3-4 épisodes, on verra. Et en fait, globalement, j'ai jamais arrêté. Et donc, tout ça pour dire que finalement, comme quoi, quand on touche le fond, quand on est vraiment pas bien, c'est aussi dans ces moments-là, parfois, qu'on se reconstruit, quoi. Et que j'ai pensé les choses différemment. Donc ça, c'est peut-être aussi un message pour ceux qui nous écoutent, qui sont pas au top en ce moment. Sachez qu'on peut s'en sortir, mais souvent il faut de l'aide d'autres personnes. Donc ça, c'est la première question qu'on me posait tout le temps. La deuxième question qu'on me pose également beaucoup, c'est: Pauline, quelle est ta ligne éditoriale? Comprendre comment choisis-tu les invités du podcast. Alors c'est une bonne question, et pour être honnête, ça a un peu évolué. Je pense qu'au début, je le faisais, je l'ai toujours fait, quand même, ça reste vrai. Je l'ai toujours fait parce que ce sont des personnes qui m'inspirent ou qui m'intéressent, à qui j'ai envie de poser des questions. Donc, globalement, Hélène Le Gastelois, je m'intéressais à son métier dans le monde de l'influence. Je me rappelle très tôt, Jean Laroche Brochard, qui est un VC, donc un venture capitaliste, un investisseur dans des startups. Là aussi, je trouvais que son métier était très intéressant et je le trouvais très inspirant. Roxane Varza, pareil, je crois que c'est l'épisode numéro 3. Fred Mazzella, pareil. Bref, ce sont des personnes, vraiment des gens qui m'intéressait, qui m'inspirait, à qui j'avais envie de poser des questions. Et en fait, le podcast, c'était juste un bon moment où je me disais, j'ai une heure où je vais pouvoir les mitrailler de questions sur tous les sujets en fait qui m'intéressent. Et donc ça, je dirais que ça reste quand même la ligne directrice principale du podcast, qui est des personnes à qui j'ai envie de parler, à qui j'ai envie de poser des questions. Après, avec le temps, j'ai quand même un peu fait évoluer ma ligne édito, au sens où il y a un certain nombre d'invités ou d'angles que soit j'ai envie de plus mettre en avant que dans d'autres podcasts pour me différencier, aussi parce que ça me plaît plus. Et puis aussi, je dirais qu'il y en a certains que justement je n'ai pas envie de cautionner ou de mettre en avant. Et du coup, je fais un certain nombre de choix. Et vous avez peut-être vu certains invités qui passent dans tous les podcasts. Moi, ils viennent pas chez moi parce que justement, par essence, je fais attention à essayer d'avoir cette différenciation. Donc, pour être concret, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, vous le savez, j'ai créé une marque de joaillerie qui s'appelle Gemio. Et en fait, j'aime bien l'idée que le monde des affaires, c'est un monde de bienveillance. Donc, j'essaie de mettre en avant des invités où j'ai l'impression qu'ils partagent ces valeurs-là. Ça peut paraître un peu cucu, mais c'est quelque chose qui compte pour moi. Autre chose que j'aime bien, c'est montrer en fait qu'il y a des entreprises qui peuvent se développer dans le temps, dans un temps long, et que le succès, c'est pas juste une levée de fonds, c'est pas juste gagner plein d'argent, c'est pas juste être médiatique à un moment donné. C'est pas la rapidité ou l'argent en fait qui pour moi constitue le succès. C'est beaucoup plus en fait le fait de se sentir épanoui dans son travail, d'apporter du sens, de faire un bel objet. Et pour moi, les beaux objets, ça prend du temps à se construire. Et du coup, vous remarquerez peut-être que les usual suspects, si je puis dire, c'est-à-dire certaines personnes qui sont assez médiatisées et qui parfois ont eu des succès très rapides, moi, je mets toujours un peu de temps avant de les inviter parce qu'en fait, j'ai envie de m'assurer que d'une certaine manière, c'est légitime et que c'est pas juste un effet de mode. Donc, j'essaie vraiment d'aller chercher des invités qui ont des histoires à raconter, qui ont suffisamment d'expérience, de cheveux blancs, si vous voulez, pour avoir vraiment quelque chose à raconter. Du coup, je m'interdis pas mal, pour tout vous dire, pas de manière unilatérale, mais disons que j'ai par rapport à d'autres podcasts, je pense beaucoup moins de personnalités du monde de la tech, du monde des startups. Pas parce que je suis contre ce monde, mais parce que je trouve qu'il est déjà suffisamment médiatisé. Et donc, je me dis, je préfère donner la parole à d'autres personnes et montrer aussi une autre vision, du monde de l'entreprise et des affaires. On n'est pas obligé d'avoir levé 100 millions, en fait, pour être heureux dans la vie. Bien loin s'en faut. Au contraire. Moi, j'aime bien les personnes qui vont avec juste leur sueur, avec leur énergie et qui se donnent les moyens, bien sûr, mais qui n'ont pas forcément, en fait, ces capacités financières. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'ambition. ambition, au contraire, mais moi j'aime bien cette idée de me dire qu'il y a besoin de temps pour construire quelque chose de beau. Et donc, bah, je dirais qu'au niveau des invités entrepreneurs ou businessmen que j'invite, j'ai quand même plutôt une tendance à privilégier des personnes qui travaillent dans des grands groupes ou des personnes qui travaillent dans des marques, dans des PME, on va dire, alors même si le terme n'est pas toujours très sexy, plus que des startups où parfois, franchement, ben, je sais qu'il peut y avoir des chiffres qui sont impressionnants, mais franchement, bon, je vais être honnête avec vous, hein, quand on gratte un peu derrière, franchement, il se passe pas grand chose. Et moi, j'ai déjà entendu plein d'histoires un peu terribles d'ailleurs, où on voit des levées de fonds mirobolantes, et en fait, quand on regarde le chiffre d'affaires, si vous voulez, ils font, mais un chiffre d'affaires ridicule, sincèrement. Donc moi, j'ai envie, à un moment donné, de me sentir responsable de ce que je fais voir à mon audience, et je me dis que moi, ma responsabilité, c'est de montrer que, bah, le succès, c'est pas juste des levées de fonds, c'est pas juste des strass et paillettes, si je puis dire. Une fois de plus, je suis pas en train de dire que toutes les personnes qui travaillent dans des startups sont pas des gens bien. Enfin, vraiment, c'est pas ce que je veux dire. Mais disons que je veux plus donner la parole à un autre type de business, à un business de temps long, parce que, bah, c'est quelque chose qui compte pour moi, et je trouve qu'en plus, c'est pas forcément des personnes qui sont aussi médiatisées que sur d'autres podcasts, ou en tout cas dans les médias. Donc ça, je dirais que ça a peut-être un peu évolué, parce que au début de mon podcast, je pense que j'étais moins attachée, en tout cas je m'étais moins formulée ça, et je pense que j'étais aussi d'ailleurs très intéressée par le monde du business des startups. D'ailleurs, pour tout vous dire, ça, je pense que je l'ai peut-être pas très souvent dit sur le podcast, en réalité, ça a tout à fait été en corrélation avec mon cheminement personnel, parce que à l'époque, j'avais moi-même levé des fonds, et d'ailleurs, au début de Gémio, nous avions un financement par fonds d'investissement, et en fait, on a fini avec mon mari par racheter notre fonds d'investissement, et donc à devenir notre propre propriétaire, si vous voulez, être chez nous, à la maison. Et donc, cette indépendance financière, le fait que l'entreprise nous appartienne, qu'on en soit propriétaire, c'est quelque chose qui a beaucoup changé ma vision de l'entreprise, qui est beaucoup plus sur le temps long, et qui fait que maintenant, j'ai plus envie aussi de mettre en avant ce type de personnalité, pas parce que j'ai envie d'avoir que des gens comme moi, mais parce que je trouve une fois de plus que c'est pas forcément le discours ambiant, et donc j'ai envie d'être cette voix quoi, qui donne peut-être plus la parole à des créateurs d'entreprises ou de marques ou des dirigeants d'entreprises qui sont pas créateurs, qui sont plus dans ce temps long. Donc ça, c'est clairement un point important de ma ligne édito. Et puis le troisième point important de ma ligne édito sur lequel j'ai peut-être pas beaucoup communiqué aussi par le passé, c'est le fait que j'aime bien avoir sur le podcast des personnes avec de l'expérience. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne veux pas inviter que des personnes qui ont 70 ans sur le podcast. Mais il y a une petite blague en interne dans mon équipe qui est que en réalité, j'adore les personnes qui ont franchement 70 ans et plus quoi. Et d'ailleurs, Alain Juillet, meilleur épisode, je crois qu'au moment où on a fait notre épisode ensemble, il avait 84 ans. 84 ans. Je trouve qu'il y a une sagesse, qu'il y a une puissance d'enseignement, mais qui, naturellement, en fait, est inestimable. Et il y a plein d'épisodes auxquels je pense qui sont avec des personnalités plus âgées. Je pense à Alain-Dominique Perrin, je pense à, évidemment, donc Alain Juillet. Je pense à Xavier Fontanet, Patricia Barbizet, qui a quand même été le bras droit de Pinault, mais pendant des années. Orlan, l'artiste plasticienne. Bref. En fait, je trouve que cette expérience, c'est inestimable, et pourtant ce sont des personnes qui sont très rarement mises en avant dans les médias. Je trouve qu'on leur donne pas la parole, et moi personnellement, mais j'adore quand on me raconte mais toute l'histoire, la folle aventure de Cartier comme l'a fait Alain-Dominique Perrin, honnêtement, c'est inestimable. Et du coup, je dirais pas que j'ai pas envie de mettre en avant des personnes plus jeunes, mais c'est juste que, en fait, quand je compare quelqu'un qui a 30 ans et qui a peut-être 10 ans d'expérience professionnelle, c'est souvent très intéressant. Mais en fait, il y a plein de podcasts où on peut les écouter. Et par contre, moi, je trouve que des podcasts comme les miens, où on peut avoir une personnalité comme Patricia Barbizet, qui franchement a vu, le monde entier, je me dis, ça, c'est vraiment une valeur ajoutée, en tout cas, qui, moi, à titre personnel, me touche beaucoup. Et donc, c'est vrai que j'ai une petite tendance, il faut le dire, à privilégier les personnes, on va dire, avec de l'expérience sur le podcast, qui sont pas d'ailleurs forcément très connues du grand public, mais qui, pour moi, ont vraiment mais des partages d'expériences qui me touchent beaucoup. Et puis, le dernier point aussi qui fait que j'adore avoir ces personnes un peu plus âgées, c'est que souvent, ils sont complètement sans filtre. Ils ont plus rien à perdre. Ils s'en foutent. Ils se lâchent. Ils sont avec moi, ils me disent, mais ma petite, en tout cas, moi, je bosse plus, donc en fait, je te raconte ce que tu veux. Alors que quand vous avez des personnes qui sont encore en poste, ou qui sont en train d'essayer de réussir, ou qui sont sur le point de réussir, si vous voulez, ils ont encore des trucs à perdre, ils contrôlent un peu leur voix, ils contrôlent un peu ce qu'ils vont vous dire. Franchement, quand vous avez Alain Juillet, qui a 84 ans, qui a tout vu, tout fait, il a été agent secret, enfin, je peux pas vous dire, mais en fait, je pose une question, il me répond, et en fait, il y a zéro filtre. Et ça, j'adore, et je trouve personnellement que c'est ma valeur ajoutée, quoi, de vous trouver ce genre d'invité qu'on ne trouve pas ailleurs, qui ne prennent pas souvent la parole, et qui, ben, franchement, on ne sait même pas vraiment ce que c'est un podcast en général. Je dois vous dire que du coup, parfois, techniquement, c'est pas toujours facile. Mais voilà, je dirais que ça fait partie de mes petits quirks, on va dire des différenciations du podcast. Il y en a certainement plein d'autres. Et une fois de plus, hein, je dis pas que j'ai pas envie d'avoir de temps en temps des personnalités géniales qui ont 35, 40 ans. Mais globalement, dans le gradient, je vais plutôt tendre vers ça. Encore une question pour vous. À quel point est-ce que tu fais du montage sur le podcast? Est-ce que c'est très monté ou est-ce qu'en fait c'est vraiment le reflet de la réalité? Et puis, question corollaire, est-ce que on peut publier? Est-ce que ça se fait, quoi, de faire quasiment pas de montage? Alors moi, personnellement, je fais très très peu de montage. La manière dont je fais les épisodes, donc je fais préparer à une personne de mon équipe des fiches récap sur mon invité, où j'ai un peu une grille, si vous voulez, avec plein de thèmes que j'aimerais bien aborder. Donc cette préparation est faite par une personne qui travaille avec moi. Ensuite, c'est moi qui prépare les questions et puis du coup, je fais l'interview avec la personne. Et donc, pour être honnête avec vous, j'ai des questions qui me sont sous le nez, mais en général, je les suis pas trop. À part mon crible à la fin, où, oui, là, je suis mes questions. Le reste, ça part pas mal freestyle et j'essaye plutôt de rebondir à ce que la personne me dit, parce que pour moi, c'est plus une conversation qu'une interview à proprement parler. Donc bref, tout ça pour dire que je pars un peu dans tous les sens, mais bon, en général, j'ai l'impression que vous aimez bien. Et à la fin, effectivement, je fais mon crible. Donc, en général, il y a quasiment pas de montage parce que en réalité, c'est très fluide, c'est comme une conversation. Donc, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit intervenu, qui ait interrompu la conversation, qui ait, je sais pas, mon invité qui était prise d'une quinte de tout, pas possible, qui éternue. Franchement, la réalité, c'est qu'on fait quasiment pas de montage. Oui, il y a un travail qui est fait au niveau du son pour que le son soit le plus agréable possible, mais par contre, franchement, il y a quasiment pas de retraitement au niveau du fond. Il m'est arrivé, pour tout vous dire, que j'ai des invités qui me le demandent et j'essaye de leur expliquer que c'est pas l'identité du podcast et que ce podcast il est censé être le plus naturel possible et que du coup si on se met à couper tout le E, les E, les A, etc., bah franchement en fait c'est plus naturel. Donc oui, de temps en temps il y a des tics de langage et d'ailleurs moi j'en ai plein, désolé. et donc voilà, je fais quasiment pas de coupe. Sauf quand vraiment ça m'est demandé, et ça c'est vrai, que je propose toujours en début d'interview à mes invités de couper s'ils le souhaitent une partie où ils se sentiraient mal à l'aise, et ça a pu arriver que certains invités, mais c'est assez rare, me disent « Ah bah tu vois, là j'ai dit une phrase et en fait je me rends compte que c'est pas très élégant, ou enfin franchement c'est pas très sympa vis-à-vis de mon équipe, ou je sais pas quoi », et du coup, bien sûr, dans ce genre de cas, je peux le couper, mais franchement c'est rarissime. À l'inverse, les invités, et ça m'est arrivé aussi qu'ils me demandent de tout couper parce que en fait ils ont pas compris quel est l'exercice et qui, j'imagine, le voit plus comme une interview télé ou une interview radio, bah en fait, soit ils acceptent finalement de se plier aux règles du jeu, soit on diffuse pas l'épisode, mais moi je peux pas faire un épisode où je vais complètement dénaturer l'identité du podcast, c'est-à-dire faire quelque chose qui n'est pas le reflet de la réalité. Donc voilà pour répondre à la question, il y a très peu de montage pendant l'interview. Une fois que j'ai fait l'interview, en général je fais l'intro, je la fais dans la foulée, parfois je l'ai écrite, elle est assez et je la lis, parfois en fait je la fais de manière plus spontanée, ça dépend un petit peu à quel moment je la fais, et la conclusion est toujours la même. Mais donc vous voyez, il y a très très peu de montage au final. Une autre question qu'on m'a posée, c'était rigolo, sur Instagram, c'est est-ce que tu vas continuer, Pauline, à faire toi-même tes interviews? Alors ça m'a fait un peu sourire parce que je pense que ma valeur ajoutée principale sur le podcast, c'est de faire les interviews. C'est vrai que si je les fais plus, je pense que bah déjà ce podcast ne devra plus s'appeler le podcast de Pauline Agneau, qui est complètement mégalo comme nom entre nous, mais surtout en fait j'aurais plus aucune valeur ajoutée. Et puis surtout en fait c'est mon plaisir, c'est ça en fait mon kiff, c'est pas de sortir un épisode de podcast pour sortir un épisode de podcast, c'est de rencontrer des gens, leur poser des questions. Ce que j'adore aussi, c'est quand vous me dites, ou quand mes invités, ils me disent assez souvent, ils me disent « Ah bah dis donc, c'était différent comme interview, c'est pas du tout les mêmes questions que d'habitude. » Là, j'ai interviewé une femme sur le podcast et je lui ai dit « Bon bah, a priori, j'ai essayé de faire des angles différents de ce que vous faites d'habitude, c'est quelqu'un qui est assez médiatique, donc elle a l'habitude de prendre la parole en public. » Et à l'issue de l'interview, elle m'a dit « Bah effectivement, c'était très différent, c'est des questions qu'on m'a jamais posées et du coup, j'ai vachement aimé parce que bah ça m'a changé. » Je le fais pas pour ça, mais disons que je me dis, si ces personnes, ils ont déjà répondu 10 000 fois à ces questions, bah ils ont peut-être envie de changer. Et puis même moi, en fait, autant ne pas écouter les mêmes réponses à chaque fois et poser des questions qui sont différentes, parce que rien ne m'empêche d'aller écouter le podcast d'un autre ou d'aller lire un article sur cette personne si je veux avoir une réponse à la question qu'on leur pose toujours, qui est comment tu as créé telle marque, etc. Donc pour répondre à cette question, longue digression, oui, je vais continuer à faire les interviews moi-même. Je pense que le jour où j'arrête de prendre du plaisir à faire les interviews, bah ça sentira mauvais pour le podcast, et a priori j'ai envie de dire ça voudra dire qu'il faut que j'arrête probablement, ou en tout cas que je ralentisse le rythme. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant on n'y est pas. Encore une question pour cette FAQ, est-ce que les invités viennent à toi ou est-ce que tu les repères et du coup c'est toi qui vas vers eux, quoi? Et merci beaucoup pour ton contenu. Bah merci à toi pour cette question. Ça dépend. Ça dépend. J'ai de temps en temps des invités qui viennent à moi surtout via, je ne vous cache pas, des attachés de presse, des groupes de pub, enfin plein de leurs propres entreprises en fait, où ils essaient de faire communiquer en fait leur patron souvent. Et donc oui, il m'arrive quand même assez souvent d'être démarché. J'ai même une personne dans mon équipe qui en particulier gère ça et qui répond à 99% non, je dois dire. Mais donc il m'arrive de temps en temps quand même de dire oui. C'est assez rare parce que typiquement, bah pour en revenir à ma question de la ligne édito, en fait avoir un invité qui est passé dans tous les podcasts, même si c'est quelqu'un de très intéressant et tout, je me dis, est-ce que je vais vraiment réussir à avoir un angle différent et donc apporter quelque chose de différent? Pas toujours, et donc ça m'intéresse pas trop. Je me dis, je préfère avoir une nouvelle personnalité ou quelqu'un qui sort du lot, et donc c'est vrai que j'ai plutôt tendance à ne pas très souvent prendre les invités qu'on me propose. Ça peut arriver de temps en temps quand j'ai vraiment envie ou que je trouve que la personne elle est dingue, mais c'est quand même assez peu fréquent, donc c'est majoritairement moi qui viens à eux. Le seul cas de figure où je peux accepter les demandes entrantes, on va dire, c'est quand c'est vous, les auditeurs, en fait, qui me faites des intros. Ça, j'adore. Et j'ai déjà eu plein de fois des super invités de podcast. Je pense notamment à Loïc Finaz, amiral incroyable, qui a été d'ailleurs un des épisodes aussi les plus écoutés. Il est pas dans le top 5, mais franchement, il est pas très très loin. C'est écouter cet épisode si vous l'avez pas écouté. C'est une leçon sur le leadership, sur le commandement, sur le management et la bienveillance qui est assez exceptionnelle. Bah, ça, pour tout vous dire, c'est l'un de vous qui me dit un jour, je crois que c'était son père, il me semble. Mon papa, c'est Loïc Finaz, t'en as peut-être jamais entendu parler, mais je pense que tu l'aimeras bien. Est-ce que si tu veux, je te fais une intro, regarde un peu son profil. Je pense que c'est un candidat pour le podcast. Et ça, sincèrement, c'est pas si peu fréquent que vous me fassiez ces remarques. Et j'adore parce que ça sort complètement du lot. C'est pas des invités qu'on voit ailleurs. Et puis c'est vous finalement qui connaissez le mieux mon podcast. Donc si jamais vous jugez vous-même en toute sincérité que c'est un invité qui en fait peut passer le crible, eh bien en général vous avez bien raison. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je vous remercie et d'ailleurs continue à le faire parce que franchement ça m'aide énormément et ça me fait découvrir des super personnalités. Donc ça c'est un bon biais, je dois dire, de repérage pour mes invités. Et puis après j'ai quand même une personne dans mon équipe qui fait ça. Moi-même aussi d'ailleurs, je lis la presse, je farfouille sur les réseaux. Voilà, quand je lis un article ou quoi, je peux noter un nom. Mais du coup en fait il y a aussi énormément de démarchage de notre côté. Et je veux dire que c'est pas facile tous les jours. Il y a certains invités, franchement. Je blague pas, là j'ai actuellement des invités qui sont bookés pour dans 6 mois, c'est-à-dire qu'il y a certains invités, on sait qu'ils sont tellement pris que je suis obligée de booker le rendez-vous avec eux 6 à 9 mois avant l'interview. Donc je vous laisse imaginer un petit peu l'organisation que ça nécessite. Et puis surtout, on n'est pas à l'abri que leur plan change et que du coup ils annulent. Donc il y a certains invités, franchement, j'ai mis quasiment 2 à 3 ans à les avoir. Mais bon, faut persévérer, faut s'accrocher, c'est une bonne leçon de vie. Et en l'occurrence, c'est souvent des invités qui sont géniaux, quoi. Et du coup, ça me donne la motivation pour continuer. Mais donc ouais, la plupart de mes invités c'est moi qui les démarche avec mon équipe, et je salue au passage Marie qui gère ça pour le podcast et qui le fait fort bien, ma foi. Allez, j'en prends une dernière parce que l'heure tourne. Dernière question, quel est l'invité où tu as été le plus stressé face à lui ou elle? C'est pas facile comme question parce que je peux vous dire qu'il y en a eu plusieurs. Je pense que si je devais vous donner un nom, je dirais que c'est un épisode assez récent. Et d'ailleurs, je crois me rappeler que je me suis excusée publiquement parce qu'effectivement, j'avais trouvé que j'étais assez nulle pendant cet épisode. Mais comme lui était brillant, ça compensait. C'était l'épisode avec le philosophe André Comte-Sponville, qui d'ailleurs fait aussi partie des tops épisodes du podcast. Il est, je pense, dans le top 10. Et honnêtement, j'avais une pression de dingue parce que c'est une personnalité que j'admire énormément. Il est philosophe, il est brillant. Moi-même, j'ai fait des études littéraires, donc en fait, je me mettais la pression parce que je me disais « Ah, mais si tous mes potes de normal sup comme moi, ils écoutent, ils me trouvent nul. » Enfin, je sais pas pourquoi, en fait, j'avais plein de blocages. C'est un peu bête parce que finalement, je suis pas moins bonne qu'une autre pour poser ce genre de questions, mais je me suis mis une pression d'enfer. Et donc... j'arrive, je bégayais, quoi. Enfin, franchement, quand je l'ai rencontré pour la première fois, je pense pas que j'ai fait une très très bonne impression. Il a dû se dire que j'étais un peu nulle. Mais bon. Et en plus de ça, on était dans une petite salle, où il y avait le soleil entrant qui s'est mis à tourner et qui était très très chaud et qui s'est mis à être en plein sur nous. Donc en fait, en plus, on crevait de chaud. C'était vraiment pas un épisode facile au niveau de la gestion, humaine, quoi. Donc je dirais que c'est cet épisode-là où franchement j'étais pas à l'aise parce que je sais pas comment vous dire, j'avais une espèce de pression que je m'étais mis de poser des questions intelligentes. Et je trouve ça un peu dommage avec le recul, parce que au final, je sais très bien que les épisodes qui marchent le mieux, c'est quand je suis juste naturelle, spontanée, et que je me pose pas trop de questions, et que je, en fait, je suis plus tournée vers l'autre, quoi. Et je pense que pour cet épisode, j'étais un peu trop auto-centrée, et en fait, j'arrêtais pas de me dire, ah, est-ce que je pose la bonne question, etc. Donc, bon, c'est comme ça. On a tous nos failles, et en l'occurrence, là, face à un philosophe aussi important que André Comte-Sponville, clairement, les miennes ont été bien visibles, mais bon, au final, la bonne nouvelle, c'est que, comme je le disais, lui a été tellement brillant qu'il a beaucoup parlé, et donc moi finalement j'ai pas eu beaucoup de place pour dire mes bêtises, et donc mes questions finalement sont passées un petit peu au travers des mailles du filet, et on les a pas trop écoutées, pas trop entendues, je pense. Donc je reste quand même fière de cette interview, et je pense que ça reste une très très belle conversation, parce que lui nous a fait passer des messages qui sont hyper inspirants et surtout émouvants. Voilà, c'est tout pour la fac. J'espère que ça vous a plu. Je trouvais ça rigolo de faire ça. C'est vrai que je le fais pas très souvent, mais je me dis quand même 50 podcasts cette fête, et donc je me suis dit que ce petit moment où j'allais quand même prendre le temps de répondre à vos questions, parce que tout ça c'est des questions que vous m'avez posées sur Instagram, c'était la moindre des choses. Enfin, pour terminer, je veux juste terminer une fois de plus par vous dire un grand, grand et sincère merci. Je l'ai déjà dit, je l'ai répété, mais franchement, tout ceci ne serait pas possible sans vous. Donc voilà, je vais pas m'éterniser sur ce sujet, je crois que vous sentez l'émotion dans ma voix. Je suis vraiment heureuse de faire ce petit bout de chemin avec vous. J'espère que ces 5 premières années sont le début d'une longue série, qu'on va continuer à mieux se connaître, que je vais continuer à vous surprendre, à vous apporter des invités qui vous plaisent, qui vous font réfléchir, qui vous font devenir, comme vous le savez, la meilleure version de vous-même. En tout cas, moi, je crois qu'avec ce podcast, et grâce à vous notamment, j'ai appris à continuer à devenir la meilleure version de moi-même. Merci à tous et à bientôt.